Radio Libertaire 89.4, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Tour du Monde Libertaire, une émission animée par Séraphin des Alicots, avec la... avec à la régie Monique. Bonjour Monique.
Bonjour.
Aïe, 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 aïe. Et c'est donc parti pour le Tour du Monde Libertaire, le journal sans dieu, ni maître, ni publicité de la Fédération anarchiste, le ML pour les intimes, le numéro 1871 d'avril 2025. 1871, ça me dit quelque chose, mais quoi ? Bah la commune, patate ! Eh oui, justement, je me disais il y a peu que ça ne servait à rien d'annoncer le numéro du journal chaque mois dans cette émission. Dire qu'il s'agit du Monde Libertaire à paraître, d'accord. Dire qu'il s'agit du numéro du mois X ou Y, d'accord. Mais le numéro, tout le monde s'en tape. J'en étais là de mes méditations lorsqu'arriva le numéro 1871. Un numéro, mais surtout une année qui a marqué durablement l'année de la Commune de Paris. Et ailleurs, on le sait peu, en différents endroits de notre douce France. Le comité de rédaction du Monde Libertaire, affûté comme tout, n'a pas manqué l'occasion et consacre son numéro d'avril à la Commune de Paris. Bien sûr, mais à toutes les communes. Un conseil pour l'avenir, ne manquez pas les numéros 1914, 1936 et 1968, entre autres. Pour le moment, tenons-nous-en au numéro 1871 du Monde Libertaire et son contenu. Un Monde Libertaire, je vous le rappelle, que vous trouverez bientôt dans vos boîtes à lettres si vous êtes abonné et dans peu de temps à Publico et dans tous les points de vente habituels. Une que nous devons à notre ami fidèle Jacques Tardy et qui proclame « Vive la Commune ». Je vous propose de regarder tout de suite ce que nous dit l'édito de ce numéro d'avril et que nous devons à Francis. La Commune, une date, 1871, un nom, la Commune. Celle de Paris dura 72 jours, mais n'oublions pas celle de Marseille, Limoges, Narbonne, Saint-Étienne et Lyon, dès 1870. De quelques jours à quelques heures, toujours un cri du peuple qui dénonce un État dont les dirigeants ont jeté dans la guerre des hommes pour redorer le triste blason de leur politique. Oh la vache, c'est quand même vachement d'actualité, hein. Les femmes et les hommes du peuple veulent prendre leur ville en main. Leurs appels sont d'une actualité rare, comme je vous le disais précédemment. Lors des élections, choisir des représentants issus du peuple qui rendront compte sur la base du mandat impératif. La Commune de Paris et les autres porteront des projets concrets. L'éducation intellectuelle et manuelle pour tous, la séparation de l'Église et de l'État, les prémices d'un droit du travail, les droits économiques et sociaux des femmes, l'égalité salariale, la gestion directe des ateliers, la réforme de la justice, l'accès à la culture. Derrière chacun de ces thèmes se profile un anarchiste tel Courbet en ce qui concerne l'art. Aujourd'hui encore, ces aspirations sont à défendre et à construire. Ainsi, la démocratie représentative n'est qu'illusion. Le pouvoir de l'électeur est abandonné aux représentants. L'idéal de la commune s'est diffusé dans le monde entier car il est universel. En France, des luttes se réfèrent à ces principes ou les mettent en pratique, notamment dans les ZAD. 154 ans après, les libertés sont menacées, voire en régression. Les colonnes de notre journal s'en font régulièrement l'écho. Défendons-les. Ces conquêtes sociales et politiques sont les acquis des femmes et des hommes. Rien n'est donné. Tout est issu des luttes sociales. Comme toujours, jouxtant l'édito, le strip de Faber, Monsieur l'Homme, comme un clin d'œil au compagnon courbé. Et puis une brève d'histoire noire dénichée par Julien Caldironi de la Fédération anarchiste angevine aux archives départementales du Maine-et-Loire. Je cite. Préfecture de Maine-et-Loire, notice individuelle établie le 21 juin 1899. Bourri, Marie, allumetière, 31 ans, taille, 1m56, front ordinaire, cheveux, sourcils grisonnants, yeux gris, visage ovale, nez petit, teint frais, bouche moyenne, menton barbu. Détail particulier propre à faciliter la constatation de l'identité de l'individu, gros ventre. Renseignements divers. Exaltée et dangereuse, propagandiste par les paroles, lectrice de journaux libertaires, engagerait les camarades à émasculer le directeur.
Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance. Et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades. Les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit avec toi je vais aux barricades. La place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernier culbute, une balle en plein front. Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs.
La commune est en lutte, Jean-Roger Caussimon, dans le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Eh, quelle belle orchestration avec Jean-Roger Caussimon. Et donc, nous sommes donc dans le Tour du Monde Libertaire 89.4 sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, comme vous le savez. Avant de revenir au dossier consacré à la commune, aux communes, voyons les pages terrain des luttes de ce monde libertaire avec Wail du groupe Macno de Saint-Étienne qui nous propose un article sur la lutte des travailleurs sociaux de l'ADAPEI. L'ADAPEI à Saint-Étienne, créé depuis 1957 et reconnu d'utilité publique Depuis 1964, l'ADAPEI de la Loire est une association de parents et amis de personnes en situation de handicap qui gère dans la Loire pas moins de 60 établissements spécialisés dans l'accueil et l'accompagnement de personnes en situation de handicap de tout âge. Parmi eux, les ESAT, établissements et services d'aide par le travail, les SAVS, services d'accompagnement à la vie sociale, les MAS, maisons d'accueil spécialisées, et autres structures. On retrouvera comme professionnels dans ces structures des éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, des aides-soignants, des psychologues, des chefs de service et plein d'autres professionnels du secteur social et médico-social ayant des formations plus ou moins proches sur un plan technique et théorique. Enfin, l'association administre un ensemble de dispositifs d'aide, d'insertion à destination des aidants et ou des personnes en situation de handicap. Ici comme ailleurs, on pourrait dire partout, le maître mot est économie. Alors attention, on va rentrer dans un truc un peu technique. Les CPOM, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Ça, c'est formidable parce que c'est quand même des trucs avec des noms pas possibles et dont on devine qu'ils sont complètement inutiles. Donc, ces contrats pluriannuels d'objectifs sont des contrats budgétaires passés entre chaque agence régionale de santé et le ministère des Affaires sociales et de la santé, puis entre les agences régionales de santé et les établissements de santé, cela tous les 5 ans. Le nouveau CPOM arrive en 2026 et devra courir jusqu'en 2030. Alors, déjà, lors du dernier CPOM, donc celui qui couvrait 2021 à 2025, vous suivez, l'argent distribué était inférieur aux besoins nécessaires pour que les travailleurs sociaux réalisent correctement leur travail. Puis, lors du mois de juin 2024, comme sur un coup de tête, la direction de l'ADAPEI Loire annonça un déficit de 3,5 millions d'euros et donc des mesures restrictives pour pallier le déficit. Ces mesures ont vocation à faire des économies en termes humains et financiers, entraînant des salaires faibles, proches du SMIC ou au SMIC tout simplement, et non revalorisés. Aucune prime, une suppression des remplacements liés à un congé maladie, un arrêt des formations pour les professionnels, des annulations de rendez-vous médicaux, un accompagnement seul sur des groupes de 10-15 personnes en situation de handicap, une incapacité à amener les usagers en activité ou à la rencontre de la société. Des résidents couchés à 19h et enfermés souvent dans leur chambre pour ne pas qu'ils représentent un danger pour eux-mêmes, pour les autres résidents ou pour les professionnels. Et puis l'embauche de personnes non qualifiées, la liste est encore longue. Cette situation entraîne de la maltraitance envers les personnes en situation de handicap. Les familles et les usagers souffrent et les grandes valeurs prônées par le travail social restent des vœux pieux ou sont piétinées. L'autodétermination, la dignité, etc. Les travailleurs sociaux dans cette situation se sont vus obligés de se mobiliser face à un système qui entre en contradiction avec les valeurs qu'ils prônent et le travail qu'ils réalisent quotidiennement. Pour cet article, Wail a rencontré des travailleurs sociaux de la CFDT, de FO et de Solidaire impliqués dans cette lutte. Et c'est à lire donc dans Le Monde Libertaire numéro 1871 du mois d'avril 2025. Mobilisation générale pour une révolution sociale, écologique et libertaire. Lors de ses traditionnels vœux aux armées, le lundi 20 janvier 2025, depuis le commandement de l'appui terrestre, numérique et cyber à Cesson-Sévigné, près de Rennes, le chef de l'État français a indiqué qu'il souhaitait notamment rénover la journée de défense et de citoyenneté en un moment clé pour inciter les jeunes à devenir réservistes. comme il avait voulu le faire à travers la création du service national universel entré en vigueur en 2019, le président de la République confirme sa volonté de militariser la jeunesse. Cependant, pour donner suite au rapport de la Cour des comptes publié en septembre 2024, les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ont opté, en octobre 2024, des amendements pour retirer le SNU du projet de loi de finances 2025. Puis, le 16 janvier 2025, il y a eu le vote du Sénat qui a décidé de rediriger 80 millions de financements sur les 100 millions prévus pour l'année 2025 vers le budget des sports. À l'inverse, le projet présidentiel est défendu par le gouvernement. La ministre des Sports et de la Jeunesse a déclaré qu'il n'était, je cite, « pas opportun de sacrifier le SNU au profit du sport » et a annoncé qu'un, je cite encore, « groupe de travail interministériel aurait pour mission de proposer des évolutions pour la rentrée scolaire ». Tout ceci fait écho par exemple à la création d'une nouvelle unité d'enseignement, l'UE optionnelle santé, en milieu militaire, à la faculté de médecine de Rennes et dont les enseignements se sont déroulés, a priori, du 11 février au 6 mars 2025, en partenariat avec le service de santé des armées SSA, et notamment réserve cadet de santé. Alors, toutes ces informations, on les a d'après une des membres du groupe FA, Fédération anarchiste, la Synapse, qui est étudiante en médecine en 6e année d'externat à la faculté de médecine de Rennes. La place des jeunes ne doit pas être dans des lieux d'embrigadement, dans une logique de préparation à la guerre. Et la jeunesse, alors la jeunesse n'a pas besoin, mais pas du tout, pas besoin de l'État pour s'engager. Les jeunes savent déjà eux-mêmes s'engager pour défendre leur droit à étudier contre le racisme et les idées réactionnaires dans des mouvements de lutte écologique, contre le patriarcat dans des mouvements de lutte anticapitaliste. Par exemple, les étudiants et les étudiantes de l'université de Rennes 2 sont actuellement mobilisés avec des actions de blocage, des manifestations, et ont été rejoints par d'autres étudiants et étudiantes lycéens, de plusieurs établissements rennais, comme les Beaux-Arts, la Fac de Droit, Sciences Po, Beaulieu, lycée Jean Massé, contre les projets gouvernementaux d'austérité dans les universités. Des réunions interfacs sont également organisées, notamment avec des étudiants et des étudiantes de Brest qui ont pris part aussi à ce mouvement de lutte. Dans l'un des communiqués de l'Assemblée Générale de Rennes 2, on peut lire ainsi, je cite, « Le gouvernement annonce une baisse des dépenses publiques, hôpital, éducation, etc., de plus de 30 milliards d'euros, alors que le budget de l'armée et les subventions en faveur du patronat ne cessent d'augmenter. Contre la casse des universités et les dérives autoritaires, nous appelons à une mobilisation générale des étudiants, des étudiantes et personnels dans tout le pays. » Cette jeunesse engagée a raison de lier, entre autres choses, la montée du militarisme et les attaques antisociales au nom de l'austérité. En effet, les savoirs pour toutes et tous, la libre pensée, la méthode scientifique, le doute rationnel sont autant de choses qu'une université bien dotée et libre devrait pouvoir entretenir sans frontières ni tri à l'entrée. Or, à l'inverse, ce sont autant de choses qu'une société nationaliste et militarisée foule aux pieds en prônant obéissance aveugle, soumission à l'autorité et propagande. Celle-ci reposant notamment sur l'invention de théories qui sont autant de mythes comme le mérite, le ruissellement, le grand remplacement, etc. Et la négation de faits avérés ou de méfaits avérés, violences policières, dérèglements climatiques, etc. Étudiants, étudiantes ou non, ici comme ailleurs, nous autres anarchistes savons combien il est important de lutter pour un accès libre et égal au savoir, pour les transformer en ressources critiques et en outils émancipateurs. Refusons donc cette logique de mise au pas grandissante de nombreux secteurs, que ce soit par l'armée ou par l'austérité, car bien loin de toute lumière, c'est l'abrutissement général qui est sonné par les gouvernements. À la négation des faits, opposons la méthode scientifique. À la soumission à l'autorité et l'obéissance aveugle, la libre pensée et le doute rationnel. À l'apprentissage de la mort et de la guerre, l'engagement et la lutte vitale contre les dominations. À l'austérité néolibérale, la nécessaire révolution sociale, écologique et libertaire. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, voilà. Et donc ce texte en forme d'appel est signé des membres de l'Union régionale Bretagne de la Fédération anarchiste et est reproduit dans Le Monde libertaire 1871 d'avril 2025. Toujours sur le terrain des luttes et toujours contre l'armée et le militarisme, un texte en forme de lettre ouverte compte envoyer au Monde libertaire nos amis de l'Union pacifiste du Limousin. Un texte intitulé « Marcher de bottes d'oignon pour faire la guerre ». Limoges, 26 février 2025. L'Union pacifiste de France, section française de l'Internationale des résistants à la guerre, a appris incidemment qu'un comité plan famille du 126e régiment d'infanterie de Brive-la-Gaillarde, représenté par sa présidente Isabelle Faure-Roche, bienfaisante bâtonnière du barreau local, invitait le public par voie de presse dans la vie corrézienne du 21 février 2025 à une fête du livre militaire. Prose afin de tuer son prochain, peut-être. Donc cette fête du livre militaire est prévue, sauf contre-ordre, le samedi 26 avril au Parc des Trois Provinces, avenue Jacques et Bernadette Chirac, c'est formidable, salle de spectacle de 2500 mètres carrés au parking imperméabilisé. Oh la vache! Une honte pour Georges Brassens, ami des pacifistes, qui a laissé son nom à la halle de la foire du livre de Brive. Symptomatique pour qui douterait encore que l'armée, école du crime, cherche désespérément à racoler de la chair à canon après le fiasco macroniste du SNU, le Service National Universel. C'est pourquoi des démonstrations avec drones, véhicules blindés, simulateurs de vol en hélicoptère, je crois que je vais y aller finalement, hein, et puis une soixantaine d'auteurs, soudards, kakis, qui s'emploieront à la débauche des jeunes pour les inciter à virer assassins professionnels en uniforme. Trois débats sont annoncés. Les blessés parlent encore, bluets et gueule cassée. Les médecins militaires par le chef Zeller face à l'hémorragie de soignants dans la grande muette. Acteurs institutionnels de soutien aux blessés par des planqués anciens combattus et en soins post-traumatiques. Il ne s'agirait nullement de concurrencer d'autres manifestations culturelles, car il y aura de la musique militaire au 6e régiment du génie d'Angers à 10 euros la place de Moelle-Épinière. Ils sont vaches quand même, hein, l'Union pacifiste. Oh la vache, dis donc. Donc, 10 euros la place de Moelle-Épinière et l'apparition du sinistre Sébastien Lecornu qui garantira que les recettes seront versées au fonds Athos de recherche psychosociale des blessés par l'armée. Et c'est signé donc de l'Union pacifiste de France, qui est une association 1901 d'intérêt général, financée par ses seuls membres et sympathisants, et que vous pouvez contacter à cette adresse, Union pacifiste en un seul mot, unionpacifiste@riseup.net.
Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se grippaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces croquignoles. En voyant ces braves Pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ceux qui passent à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en deniers, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas.
Hécatombe, Georges Brassens, dans le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Ah, on ne pouvait pas trouver mieux hein, que cette chanson pour suivre l'article de l'Union Pacifiste. Continuons donc notre promenade dans les colonnes du Monde Libertaire 1871 d'avril 2025 avec un coup de gueule. De qui ? De notre compagnon rouennais Justhomme. Justhomme est un peu énervé quand on lui parle du conclave sur les retraites. « Laissez venir à moi les petits pigeons !» Je constate qu'avec le titre qu'il donne à son coup de gueule, la cléricalité du mot « conclave », qui désigne une assemblée de cardinaux pour, en général, élire un pape, « que bene pendiente », n'a pas échappé à notre compagnon. Ah, Bayrou et son petit côté cadeau tradi qui fait tout son charme. Le conclave, donc, concernant les retraites, qui vient de s'ouvrir le 27 février et auquel Bayrou a invité le patronat et les organisations syndicales, est un piège tendu à ces dernières, nous dit en substance Justhomme. Et il poursuit. Pour perpétrer ces mauvais coups nouveaux, le Premier ministre a besoin de complices. S'il réussit, les travailleurs, les retraités, les futurs retraités paieront cher. S'il ne réussit pas, ce sera la faute des syndicalistes et surtout pas la sienne. Tout comme Ponce Pilate, la responsabilité de Bayrou lors de ce conclave dans l'échec annoncé des négociations sur les retraites n'est pas engagée. Il s'en lave les mains et laisse aux représentants syndicaux le soin d'assumer leurs incohérences et surtout leur trahison envers les travailleurs, les retraités et les futurs retraités. On ne négocie pas avec les ennemis de classe, les patrons, les politicards, les curés. Notre seule arme est la grève générale et on ne s'arrête pas en chemin. Un papier à retrouver dans Le Monde Libertaire d'avril, dans le numéro 1871. Deux faits divers que nous devons à Jean-Marc Reynaud, dit Reynaud féroce, dans ce ML d'avril numéro 1871, très bientôt dans les points de vente habituels et dans votre boîte aux lettres si vous êtes abonné, ce qui est vachement conseillé. Deux faits divers, disais-je, j'en ai choisi un, que voici, que voilà. Chronique kafkaïenne d'une urgence médicale en 2025 en France. Je sors d'un infarctus, d'un triple pontage et d'un AVC. Pour l'heure, je souffre d'un, je cite, rétrécissement aortique sur cardiopathie ischémique avec notion de dyspnée avec périmètre estimé à 100 mètres. Ouh, en clair, j'ai une valve qui fuit au niveau du cœur et le bon et le mauvais sang se mélangent. Il ne s'agit donc pas vraiment d'un petit rhume. J'habite l'île d'Oléron. Mon cardiologue réside à 50 km. Une grande chance, c'est plus près de chez moi que Strasbourg. Il s'est alarmé et m'a obtenu un rendez-vous au CHU de Haut-l'Évêque à Bordeaux, que je vous recommande, j'ai bien connu, c'est très bien. CHU de Haut-l'Évêque à Bordeaux, donc le 18 février. J'ai donc reçu il y a peu une convocation pour une journée d'hospitalisation préopératoire et on me demande un certain nombre d'examens. Le résultat d'une consultation dentaire certifiant que je ne risquais pas d'infection dentaire, d'où quête d'un dentiste. Ces gens-là ne prennent plus de nouveaux clients, ou pas avant 6 mois, même pas en urgence. Urgence ? En quoi ? Merci à la clinique mutualiste de Rochefort de m'avoir pris tout de suite. La clinique, quoi. Pour aller à l'hosto à 200 bornes et que mon transport soit pris en charge, il me fallait une prescription médicale de mon médecin traitant. La convocation du CHU n'était pas suffisante. Pas de peau, mon médecin traitant, depuis 40 ans, vient de partir à la retraite et n'a pas de remplaçant. D'où coup de fil au toubib du coin, dans un rayon de 50 km. Ils ne prennent pas de nouveaux clients, même pas en urgence. En quoi ? Après coup de fil, mon cardiologue veut bien me servir de médecin traitant. Mais il me faut aller chercher l'imprimé à son cabinet. Et paf, 100 bornes dans la tronche. Nanti du sésame, je contacte un taxi ambulancier. Pas de souci, mais Oléron-Bordeaux, ça fait plus de 150 km. Et dans ce cas, il faut un papier adéquat. La prescription médicale ne suffit pas. Donc, coup de fil à ma mutuelle. Pas de souci, je suis déjà à 100%. Mais cette demande doit être effectuée 15 jours à l'avance. Oui, mais je viens juste de recevoir ma convocation en urgence et mon rendez-vous à l'hosto est dans 8 jours. Désolé, c'est comme ça. En clair, j'ai le choix entre annuler mon rendez-vous ou m'y rendre à mes frais. Juste 1000 balles aller-retour pour une journée. Car si d'aventure on me garde, tout cela s'est arrangé. Être teigneux, avoir quelques relations et pas trop de problèmes dessous, ça aide. Mais pour ceux qui sont habitués à subir, qui n'ont pas de relations et qui ont des problèmes dessous, bref, tout va bien. Disons, moins mal. Je ne serai opéré que dans quelques mois. Désolé pour ceux qui ne m'ont pas en odeur de sainteté. Mais putain de nom de Dieu, de bordel de merde! Après avoir longtemps réfléchi, je crois que je vais prendre ma carte chez les anarchistes. Vous savez, ces gens qui nous parlent de révolution sociale et qui osent affirmer qu'en France, 5e puissance mondiale, un vrai service public de santé devrait être possible. Où les urgences seraient traitées en urgence, de manière non bureaucratique et non capitaliste. Mais, râteau, ces gens-là m'ont dit qu'ils n'avaient pas de carte à vendre. Et donc, je fais quoi ? S'il vous plaît, aidez-moi, il y a urgence ! Voilà, ça c'était Jean-Marc Reynaud, dit Reynaud le Terrible. On poursuit notre tour du monde libertaire, toujours en compagnie du même Jean-Marc Reynaud, qui, depuis qu'il sait qu'il va bientôt se faire chouchouter à l'hôpital Haut-l'Évêque de Bordeaux, ne lâche plus son clavier. Et paf ! 2 lettres ouvertes. L'une à Marie Charelle du quotidien Le Monde, pour lui rappeler ou lui apprendre que les libertaires n'ont rien à voir avec les libertariens, et la prier de cesser de qualifier ces derniers d'anarcho-capitalistes. L'autre à Monsieur le Président de la République française pour lui proposer de lui servir d'écuyer lorsqu'il partira bouter les Russes hors d'Ukraine. En grand patriote, Jean-Marc a joint un timbre pour la réponse afin de ne pas peser sur le budget de la France en économie de guerre. Lettres ouvertes à découvrir dans Le Monde Libertaire d'avril numéro 1871, bientôt disponible.
J'ai la peau du ventre bien tendue.
Chérie. Chérie. neuf mois qu'il s'y prépare. La chambre est prête, aucun retard. Et c'est au cours d'un bon repas, avant la poire au chocolat, que Magali s'arrête et dit:
ah non mais, je crois qu'il arrive, Jean-Phi.
Contrairement aux idées reçues, Jean-Phi est calme et détendu.
Oh, la brosse à dents et la layette
sont déjà dans la valisette.
Depuis le temps qu'il attend ça, il va enfin être papa. Aujourd'hui, vive la montagne. Ce n'est pas une partie de campagne.
Magali connaît la leçon à chaque nouvelle contraction.
Elle note le temps qui s'écoule et pendant ce temps Jean-Phi roule.
Malgré son manque d'expérience, elle sent qu'il y a urgence.
Chérie, je ne veux pas t'affoler, mais si tu pouvais accélérer là.
Jean-Phi se sent pousser des ailes.
C'est un bon vide, ma 4L.
Vas-y là.
Comme un héros du film d'action, il écrase le champignon.
Broum.
Aujourd'hui, vivre à la montagne, ce n'est pas une partie de campagne.
Couché sur la banquette arrière, Magali est toute de travers.
Oh, j'ai pas éteint la cafetière.
Elle se sent mal, elle manque d'air.
Dans un nuage de poussière, ils arrivent au hôpital d'Ambert.
Jean-Phi se jette sur une hôtesse et lui balance tout son stress.
Ma femme est en train d'accoucher, la maternité s'il vous plaît.
Ah monsieur, mais tenez-vous informé.
Ce service n'est plus assuré aujourd'hui.
Oh là là.
Vivre à la montagne, ce n'est pas une partie de campagne.
Jean-Phi redémarre énervé.
La pression commence à monter.
On nous prend vraiment pour des cons, obligés d'aller à Clermont.
Qu'est-ce qu'on fait avec la cafetière?
On a qu'à appeler ta mère.
La course folle continue. Magali hurle, elle n'en peut plus.
Oh, je perds les sens.
C'est la panique, la situation est critique.
Il ne manquait que ce tracteur
qui roule devant à deux à l'heure. Aujourd'hui,
alors,
vivre à la montagne.
Oh, elle avance pas.
Ce n'est pas.
Et j'accouche moi.
Partie de campagne.
À ce train va falloir une heure pour arriver jusqu'à Clermont.
J'ai envie de doubler le tracteur.
C'est con, on fasse un camion.
Il se rabat sur le rabat. Et puis l'esquive au frein à main.
Magali s'est refort les dents. Un peu plus c'était l'accident.
Elle a pu de mal que de peur.
Enfin on double le tracteur.
Dans le rétro un gyrophare annonce un duo de motards. Aujourd'hui vivre à la montagne, ce n'est pas une partie de campagne.
Jean-Phi ne veut pas s'arrêter.
Le bruit strident de la sirène qui les rattrape à grand-peine.
Allez, un chemin à la 4L qui danse au milieu des ruelles.
Un dérapage contrôlé.
Nous voici enfin arrivés.
Quand Jean-Phi ouvre la portière,
les flics le braquent.
Les mains en l'air.
Soudain de la banquette arrière
jaillit un hurlement d'enfer. Jean-Phi derrière les barreaux, dans sa cellule en garde à vue, se dit:
quelle tête à mon marmot, avec tout ça je l'ai pas vu. Pour garder la maternité, la pétition, je l'ai signée. Y en a qui avaient manifesté, je pensais que c'était réglé. Si tout est aussi compliqué, de la crèche jusqu'au lycée, il va falloir se réveiller et faire plus que protester.
Il va falloir se réveiller et faire plus que protester. Aujourd'hui, vivre à la montagne, ce n'est pas une partie de campagne.
Oh,
partie de campagne. C'était la compagnie Jolimont. Mais Jean-Marc nous a montré qu'il n'y a pas que vivre à la montagne qui n'est pas une partie de campagne.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, de la naissance à l'AVC, même combat.
Ouais, absolument.
Donc, toujours dans notre tour du monde libertaire numéro 1871 d'avril 2025, un article de Pierre Sommermeyer sur la situation en Israël-Palestine. Un article intitulé « L'année prochaine à Jérusalem ». Gaza continue d'occuper une grande partie de notre horizon. Arithmétique de l'horreur, le nombre d'otages libérés contre le nombre de Palestiniens libérés d'eux-mêmes, le nombre d'otages encore captifs et le nombre de Gazaouis soumis au bombardement. Les projets immobiliers du nouvel architecte américain ajoutent à l'imbroglio actuel. Le même, prenant les habits de Terminator, menace de tuer tout le monde. Par ailleurs, les opposants à Netanyahou, qui manifestent pour la fin de la guerre et la libération des otages restants, n'ont pas une pensée pour ce qu'il adviendra après. Pourtant, pour des raisons techniques d'une part, quantité disponible des armements et ralentissement de l'économie israélienne, et puis pour des raisons politiques d'autre part, les pressions internationales, arabes ou européennes, Israël doit envisager à plus ou moins court terme la fin du massacre et la démobilisation de ses soldats. Resterait alors à régler comment gérer ce temps et cet espace de ni guerre ni paix d'une part et d'autre part le problème des condamnations internationales. Dans cet article, Pierre Sommermeyer nous livre sa vision de la situation et pose la question de l'après. Un après bien loin de cet espoir plus que bimillénaire d'un retour en une terre promise où coule le lait et le miel. Et puis toujours dans les pages passeport, la Russie, avec cet article en prison avec Azat Miftakov. Un témoignage, c'est un témoignage en deux parties. La première, donc, dans ce numéro 1871 d'avril 2025. Les camarades du groupe russe Autonomous Action ont récemment relayé sur leur site internet le témoignage d'un ancien détenu ayant fait la rencontre du camarade anarchiste russe Azat Miftakov, prisonnier politique incarcéré pour apologie du terrorisme, dont le monde libertaire s'est fait écho de sa situation. En voici la première partie. La deuxième et dernière partie du témoignage sera, vous l'imaginez bien, dans le prochain numéro du Monde libertaire. Et c'est un article traduit du russe et adapté par Shurochka Apogey et Nicolas Pelletier de la Fédération anarchiste lyonnaise. Espagne, Espagne, Puchantique, suite et fin, point d'interrogation. En octobre dernier, le ministre espagnol de la mémoire démocratique recevait les quatre sœurs de Salvador Puchantique pour leur remettre un document qualifiant d'injuste la condamnation à mort de leur frère ayant été prononcée par un tribunal qui était sorti du cadre juridique. Je vous renvoie au Monde libertaire de novembre 2024. Cette fois-ci, le 30 janvier 2025, le gouvernement espagnol certifie officiellement, je cite, « l'annulation et du procès et de la condamnation à mort de Salvador Puchantique ». Le document déclare ainsi Puchantique victime de persécutions et de violences politiques de la part de l'État. Le ministère de la Mémoire démocratique a publié une résolution déclarant illégale et illégitime le tribunal qui a jugé l'activiste anarchiste Salvador Puchantique et illégitime et nulle sa condamnation à mort prononcé en 1974 et conclu en reconnaissant à Puchantique le droit à la reconnaissance et à obtenir réparation morale et récupération de sa mémoire personnelle, familiale et collective, dont acte. Bien sûr, ça fait une belle jambe à Salvador, assassiné ainsi par Garoville à l'âge de 25 ans, même si cette résolution donne satisfaction à ses quatre sœurs. Toutefois, En cette année 2025, où il sera beaucoup question de commémorer le 50e anniversaire de la mort de Franco, Franco la Muerte, comme on disait à l'époque, le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez serait bien inspiré de dresser un état des lieux de tous les crimes franquistes pendant la guerre civile et la dictature qui a suivi. Un nombre impressionnant d'opposants au général dictateur dont les condamnations n'ont pas été déclarées, comme dans le cas de Salvador, avoir été prononcé par des tribunaux illégaux et illégitimes. Peut-être dans 50 ans, comme pour Salvador Puccianti, qu'on attend de voir, écrit Ramon du groupe Salvador Seguí.
L'heure n'est plus au flamenco, déshonoré mystère franco. Nous vivons l'heure des couteaux, nous sommes à l'heure de Grimaud. Que t'importent les procédures qui font des ombres sur le mur quand le bourreau bat la mesure. Franco la muerte. Tu t'es marié à la camarde pour mieux baiser les camarades, les anarchistes qu'on mouchade pendant que l'Europe bavarde. Qu'importe si l'Espagne est morte, entends la mort devant ta porte. C'est Grimaud qui te la rapporte. Franco la muerte. Tu couches avec une Pénélope qui tisse un soir en bas de l'Europe sur cette Espagne que tu stoppes en attendant qu'elle te chope. L'important pour toi c'est que ça dure. Toi tu fais pas littérature, c'est pas Lorca, t'es Sarrature. Franco la muerte. Vienne le temps des poésies qui te videront de ton lit quand nos couteaux feront leur nid au cœur de ta dernière nuit. Cette nuit de la désirade, faire l'aube claire des grenades et l'Espagne des camarades. Espagne à la vida.
Franco la Muerte, c'était Christiane Courvoisier dans le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Et souvent, souvent, une des premières entrées dans l'histoire de la Commune de Paris se fait soit par une visite émouvante au Père Lachaise, soit par un effarement lié à l'incroyable nombre de morts communards, d'exécutions, de massacres et de fausses communes. Et l'on se pose la question, mais qu'ont fait de si important les hommes et les femmes de cette époque pour qu'en plus de les avoir battus, on veuille aussi effacer leurs traces à jamais et veiller à ce que les graines de résistance et de rébellion qu'ils portaient en eux ne repoussent jamais. Et là, on s'aperçoit que la Commune, ce n'est pas qu'un nombre impressionnant de cadavres, qu'une liste de monuments incendiés, que de magnifiques photos en noir et blanc de barricades ou poses des fédérés, mais que ce sont aussi et surtout des idées et des actes. En 2 mois, la Commune prend des mesures économiques et sociales. Décrets sur les loyers, sur les échéances, sur les monts de piété, s'attaque au problème du chômage en remettant en exploitation des ateliers abandonnés, abolit le travail de nuit des boulangers et accorde la priorité aux associations ouvrières pour les marchés de l'État, interdit les amendes et les retenues sur salaire, supprime le serment politique et professionnel pour toute condition d'embauche, verse des pensions aux blessés de guerre, aux veuves et aux orphelins, interdit le cumul des traitements pour les fonctionnaires publics, attribue une pension alimentaire pour les femmes mariées qui veulent se séparer de leur mari, ferme les maisons de tolérance et travaille à réinsérer les prostituées dans la vie sociale. Les communards, malgré l'état de guerre où se trouve la capitale, mettent tout en œuvre pour permettre le fonctionnement de l'administration, payant les gardes nationaux, organisant le ravitaillement en nourriture, s'assurant que pas un Parisien ne reste sans manger, développant les cantines et les soupes populaires, réorganisant le service des postes, assurant la voirie et l'éclairage des rues, faisant fonctionner le service sanitaire. Sur le plan des idées, la commune vote le décret séparant l'Église et l'État, d'où aurait dû découler la fermeture des écoles religieuses si Versailles lui en avait donné le temps. Travaille à la réorganisation pédagogique de l'école en préconisant un enseignement rationaliste et œuvre pour les écoles professionnelles et l'éducation des filles. Mais l'œuvre de la commune ne se limite pas à une série d'actes ou de décrets. C'est une révolution aussi dans les comportements. Dans les clubs et sur les places, la parole se libère. Les femmes s'impliquent dans la vie sociale et politique. Les quartiers s'auto-organisent. Les communards ont une utopie pour moteur. L'horizon de leur désir ne se limite pas à un avenir proche, mais plutôt à un changement radical de société, plus fraternel, plus social, plus juste. Tout n'est pas idyllique, loin s'en faut, mais l'envie est là et le rêve est à portée de main. Paris, isolé, ne pourra jamais voir se concrétiser son projet de fédération de communes. Pourtant, que de choses nouvelles pour l'époque. Certaines verront le jour, des années plus tard, malgré la chape de silence qui va s'abattre durant près d'un siècle sur cet événement. L'esprit de la commune est toujours là aujourd'hui, dans la volonté des hommes et des femmes de s'émanciper, de vouloir un monde meilleur, de participer au débat de la vie publique et de prendre en main leur destin. Le cadavre est à terre et l'idée est debout, avait déjà écrit en 1867 Victor Hugo. C'est un texte de Joseph Hulat, une page extraite de Paris 1871, L'Histoire en marche, édition libertaire 2020. Vous l'avez compris, nous venons d'entrer dans le dossier que le Monde libertaire numéro 1871 d'avril 2025 consacre à la Commune de Paris et à toutes les autres communes. Et pour commencer, il convient de préciser que, d'un point de vue doctrinal, les communes provinciales et parisiennes n'ont pas pris les théoriciens anarchistes au dépourvu, comme vous le lirez dans cet article intitulé « La Commune de Paris vue par quelques anarchistes historiques ». Un article que nous devons à Joël Delhomme ou Deuilhomme, je ne sais pas s'il est de pays Hoc ou de pays Doyle, auteur qui est l'auteur donc de l'anthologie intitulée De l'utilité des rebelles chez Nada Édition. La brochure « Lettre à un Français sur la crise actuelle », moins connue parmi la grande masse des écrits de Michel Bakounine, est un recueil de lettres rédigées entre le mois d'août et de septembre 1870 et compilées par James Guillaume, son proche ami et membre de la tendance anti-autoritaire de la Première Internationale. Véritable pamphlet révolutionnaire destiné à la propagande urgente du moment, il fut publié le 20 septembre, soit à l'aube de la proclamation de la toute première des communes insurrectionnelles de France, la commune de Lyon. Dans le cadre du présent dossier, le ML nous propose une courte série d'extraits, certes révélateurs des opinions de Bakounine, à la charnière de l'époque tumultueuse des communes insurgées, mais qui résonnent toujours aujourd'hui de leur pertinence. Rivière de sang à la caserne Lobo, les vampires fondent sur la commune. Le quotidien britannique conservateur The Standard du 31 mai 1871 signale depuis Londres, grâce à ses correspondants, que depuis cette semaine, les condamnés sont emmenés par fournée à certaines places d'exécution désignées d'avance. Au cœur même de Paris, à la caserne Lobo, en espagnol, El Lobo est un loup. Donc à cette caserne El Lobo, située juste à l'arrière de l'hôtel de ville. Depuis la dernière nuit, je cite toujours, depuis la dernière nuit, 500 personnes ont été exécutées et la cour est remplie de sang et de cadavres. Pour entraîner les prisonniers à marcher sans résistance, on leur dit qu'ils vont à Versailles et c'est seulement quand ils arrivent sur le lieu d'exécution et voient le sang et les cadavres qu'ils s'aperçoivent que leur dernière heure est arrivée. Parmi eux, il y a invariablement des femmes, des enfants qui pleurent et demandent grâce. Mais tous se sont poussés en avant et immédiatement massacrés. 3000 y mourront. Un long article sur la terrible répression qui s'abattit sur les Parisiennes et Parisiens que nous devons à Franck Thiriot dans ce numéro 1871 du Monde libertaire d'avril 2025.
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que les vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte, la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui mais sabrons-le dans le manche, ces mauvais jours finiront. Des gares à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur les trottoirs, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui mais, sabrons-le dans le manche, ces mauvais jours finiront. Des gares à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la république de la justice et du travail? Oui mais sabrons-le dans le manche, ces mauvais jours finiront. Des gares à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Oui mais sabrons-le dans le manche, ces mauvais jours finiront. Des gares à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront.
La semaine sanglante, interprétée par un tondu, un chevelu, dans le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Et nous poursuivons notre Tour du Monde Libertaire d'avril 2025, bientôt disponible dans les points de vente habituels et dans vos boîtes à lettres, si vous êtes abonné, ce qui est toujours recommandé. Toujours au cœur de la commune, des communes, avec ce papier fait d'extraits remaniés, tiré de James Guillaume, l'international, documents et souvenirs, 1905-1910, et intitulé « Commune de Lyon, l'insurrection du 28 septembre 1870 et son affiche rouge ». L'affiche rouge décrétant l'abolition de l'État au profit de la Fédération révolutionnaire des communes, rédigée le 25 septembre 1870, est destinée à être placardée sur les murs de la ville de Lyon à la veille du 28 septembre. Ce document est conservé aux archives départementales du Rhône et reproduite, page 27, de ce Monde libertaire numéro 1871. La veille de la manifestation lyonnaise du 28 septembre 1870, sur la grande place des Terreaux, une grande affiche rouge est placardée sur les murs de la ville, pensée comme un programme révolutionnaire. C'est en essence un appel à l'insurrection. Son contenu est sans équivoque. Destitution des autorités militaires, suspension des tribunaux, taxation des classes privilégiées et abolition de la machine étatique au profit de communes fédérées pour que, je cite, « le peuple de France rentre en pleine possession de lui-même ». Elle témoigne des orientations anti-autoritaires de ses auteurs, des membres de l'Internationale, alors à l'œuvre dans la ville, regroupés au sein du Comité du Salut de la France, à l'initiative de Michel Bakounine, pour tenter de canaliser l'effort révolutionnaire. La Comuna no ha muerto, la Commune de Paris et la Révolution espagnole. Incroyable, non? L'année 1871 est marquée par la Commune. Et immédiatement après, une répression internationale s'abat sur l'Internationale ouvrière, l'AIT. Elle est accusée d'être l'organisatrice de la Commune, de préparer des mouvements de protestation contre la répression dans toutes les grandes villes d'Europe. Tous les membres de l'Internationale qui se disaient socialistes, sans adjectif, furent persécutés de la même manière, car la division fondamentale qui devait séparer plus tard les socialistes bakouninistes des socialistes démocratiques ou marxistes n'avait pas encore eu lieu. Au fil du temps, 66 ans plus tard, l'acte de la Commune se révoltant contre l'oppression, contre l'invasion des armées étrangères, l'acte de la Commune luttant pour les idées fédéralistes, refait surface en Espagne. Et elle ressurgit en dépassant la division établie, en rétablissant le grand principe unitaire du socialisme, sans adjectif, de la socialisation qui est la revendication des droits de l'homme, en mettant le producteur en usufruit des moyens de production et en organisant la vie sur la base d'une société sans classe, sans exploités ni exploiteurs, seulement et exclusivement de producteurs, d'hommes utiles à l'espèce et à eux-mêmes, d'hommes voués à toutes les activités intellectuelles, aussi bien que manuelles, mais ne vivant pas de l'exploitation de l'activité d'autrui. Ce texte, extrait d'une conférence de la dirigeante anarchiste Federica Manzini, qui a eu lieu au cinéma Coliseum de Valence le 14 mars 1937, tient lieu d'introduction à un papier intitulé « L'insurrection de 1933 à Saragosse ». Une révolte dans la ville que l'on appelait la perla de l'anarchismo, la perle de l'anarchisme. Les rues de Saragosse brandissent le drapeau rouge et noir. Le peuple sort avec ses armes pour défendre l'insurrection. La grève générale est proclamée et s'étendra sur une grande partie de l'Aragon. Le 8 décembre 1933 commence l'insurrection anarchiste organisée par la CNT. Elle sera la dernière du cycle des insurrections anarcho-syndicalistes avant la révolution asturienne d'octobre 1934. Auparavant, la grève révolutionnaire du Haut Llobregat en Catalogne en janvier 1932 avait déjà été organisée, ainsi que l'insurrection de janvier 1933, au cours de laquelle les événements de Casas Viejas ont eu lieu lorsque le communisme libertaire a été proclamé dans une municipalité de la province de Cadiz. Contre la République bourgeoise et élitiste, boycott, grève et sabotage. Un article très documenté, publié par la revue anarchiste Todo por hacer, tout reste à faire, et traduit par Daniel Pinos pour Le Monde Libertaire.
Il était une fois dans ce grand cimetière. Écoutez bien, l'ami, c'est une histoire vraie. Le gouvernement d'alors avait perdu sa guerre. L'État de Prusse avait vaincu l'État français. Le gouvernement d'alors avait perdu sa guerre. L'État de Prusse avait vaincu l'État français. Pendant qu'on s'arrangeait entre grands de l'époque pour payer le tribut au premier des tueurs, voilà que de Paris le peuple se convoque
et décide comme ça qu'il ne veut plus de supérieur. Voilà que de Paris le peuple se convoque et décide comme ça qu'il ne veut plus de supérieur. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter. L'État de France implore son ami vainqueur de lui donner la main pour mater la canaille, car il faut sans tarder aller clouer la peur au cerveau parisien qui brave la mitraille. Car il faut sans tarder aller clouer la peur au cerveau parisien qui brave la mitraille. Et c'est le 18 mars de l'an 71 que depuis le palais où rota Louis XIV, Monsieur Thiers a brandi quelques canons de bronze et crié vers Paris, ils vous feront rendre gorge. Monsieur Thiers a brandi quelques canons de bronze et crié vers Paris, ils vous feront rendre gorge. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter. Une fille de Paris a gueulé vers le ciel et laissé sa jeunesse dans un bagne pourri. Femme, si vous luttez, saluez Louise Michel, et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi. Femme, si vous luttez, saluez Louise Michel, et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi. Aussi souvenons-nous que des frères oubliés, venus d'autres pays, citoyens de la terre, sont morts des mêmes balles que leurs frères français. Ils avaient oublié les drapeaux, les frontières, sont morts des mêmes balles que leurs frères français. Ils avaient oublié les drapeaux, les frontières. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter. Notre mémoire est née de ces quelques semaines. Compagnons et compagnes, il faut l'utiliser. Revendiquons les rues, les montagnes, les plaines, et comme les communards, abolissons l'armée. Revendiquons les rues, les montagnes, les plaines, et comme les communards, abolissons l'armée. Il faut gratter l'oubli dont on a recouvert les leçons des copains qui furent assassinés. Il faut savoir que l'autonomie ouvrière a laissé dans l'histoire des blessures infectées. Il faut savoir que l'autonomie ouvrière a laissé dans l'histoire des blessures infectées. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter.
Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé.
sur la Commune. C'était Serge Giroyot. Vous écoutez le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Et donc, dans ce Monde Libertaire numéro 1871 d'avril 2025, un article inattendu sur une commune dont je n'avais jamais entendu parler, Chichibu, une commune au Japon au 19e siècle, un article de Philippe Pelletier, d'après l'intervention qu'il a faite le 8 juillet 2021 lors de l'édition du Festival populaire des Reclusiennes, consacré au communalisme. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que les Reclusiennes auront lieu du 15 au 19 juillet à Sainte-Foy-la-Grande en Gironde sur le thème bifurqué. Et puis j'en profite également pour vous dire que les éditions du Monde Libertaire sortent un nouveau bouquin, justement signé de Philippe Pelletier, L'anarchie des météores, une analyse savante et critique de la question climatique, et toujours par donc Philippe Pelletier. La question climatique n'est-elle pas devenue un dogme entretenu par une église moderne connue sous l'acronyme de GIEC? Eh ben ça va faire jaser dans les foyers. Voilà. Donc revenons tout de même à notre commune japonaise, Chichibu, une commune au Japon du 19e siècle, c'est dans le Monde Libertaire, numéro 1871 d'avril 2025, qui sera bientôt disponible dans tous les points de vente habituels et puis dans votre boîte aux lettres si vous êtes abonné. Donc cette insurrection populaire de Chichibu 1883-1884 est la plus emblématique de l'agitation sociale que connaît le Japon 15 ans après la révolution Meiji. Elle se situe dans l'arrière-pays montagneux de Tokyo. La riziculture y étant difficile, l'économie tourne autour de la sériciculture qui est l'élevage du ver à soie, avec des paysans qui pratiquent la double activité. La soie grège est alors le premier produit d'exportation du Japon. Mais la politique déflationniste du ministre des Finances en 1881 et la crise du fil brut de soie sur la place lyonnaise en 1883 font chuter les cours. Les produits de base et les frais de scolarité s'enchérissent. Les paysans s'endettent. En décembre 1883, un trio de trois paysans rédige une pétition de plainte contre les usuriers avec le soutien de 30 villages dans le canton de Chichibu. Il la remet aux autorités cantonales qui la rejettent. La suite est à découvrir dans les colonnes du Monde Libertaire numéro 1871 d'avril 2025, bientôt dans les points de vente habituels et dans votre boîte aux lettres si vous êtes abonné. Il me semble que je vous l'ai déjà dit. Et puis notre compagnon Philippe, à nouveau un autre Philippe, celui du Calvados, de la Fédération Anarchiste, vous fera bien marrer dans ce monde libertaire. Comme on dit, il a vachement quand même la tchatche. Il a la tchatche, ce Philippe du Calvados. Alors bien sûr, ses potes l'incitent à se présenter pour être maire de son patelin. Je vous laisse lire la suite. En conclusion de ce dossier consacré à la commune, aux communes, un article intitulé « De la Thèse à la ZAD, un long cheminement ». Qu'ont donc en commun les ZAD, les zones à défendre, de l'Anthropocène et ces soulèvements de la fin du 19e siècle qui se sont appelés « communes » ? Au-delà des évidentes différences, notamment celles liées au contexte historique, géographique, social, politique, on y retrouve cette même volonté d'expérimenter de nouvelles façons de vivre, de nouveaux modes d'organisation sociale, à partir d'une nouvelle grille libertaire d'interprétation des relations sociales basée sur les principes anarchistes. Le texte que vous allez lire est le premier d'une série de trois. Le témoignage d'une personne, appelons-la ex-zadiste, selon sa volonté, qui a vécu 7 ans au sein de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Cette première partie nous décrit les motivations qui l'ont amené dans ce bocage de l'Ouest Atlantique. Amis lecteurs, amis lectrices, tu prendras le temps de t'arrêter sur le strip pavé d'un art de Crocaga avec ses héros Sadia et Mazoc. On écoute une petite chanson avant de passer à la suite de ce riche numéro 1871 du Monde Libertaire.
Du haut des cimes, de la forêt de Roanne, du salon à la cuisine, dans toutes les cabanes,
ça mène. Toujours le doux refrain, orchestré par des hommes, matraque à la main.
Expulsion du terrain, l'avion décollera demain.
Mais on résiste, main dans la main, expulsons leur bande de pantins.
Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes.
Leur bande de pourris, à la pote de Vinci. Leur bande de technocrates, social-démocrates. Sur nos terres, pas d'aéroport, pas de béton pour ces gros ports. Avis de spéculation, t'as réfléchi et ton pognon.
Jamais, nous nourrira nos gosses.
Face à vous, on restera féroce.
L'heure est de retour à la terre.
Expulsons leur bande mensongère.
Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende.
Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes.
Leur bande de lâches, soldats des mégalos, prêts à gazer des vaches, à coups de taser et lacrymo.
Sans pain, sans travail et sans armes,
nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes.
Des sabres de peuple et des curés,
jusqu'à quand les gens de guerre tiendront le haut du pavé.
On va rien lâcher, on plantera des patates, on te fera bouffer le moindre gramme d'asphalte.
Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende.
Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes.
Face à vous, de dangereux terroristes,
armés de bon sens, de palettes et de vis,
qui jettent des poireaux à la figure.
Pauvres flics, tout proche de la bavure.
Ici, tout le monde est solidaire,
la ZAD tient bon et lâchera pas l'affaire.
Ici, tout le monde est solidaire
pour construire un monde sans leur bande d'actionnaires.
Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende.
Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes.
Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende.
Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes.
Red Eerie, c'était Notre-Dame-des-Landes, dans le tour du monde libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Et oui, et ce tour du monde libertaire avec un monde libertaire 1871 d'avril 2025 qui est fort riche, riche, oui, avec deux articles, l'un de Philippe Pelletier, l'autre de Jean-Pierre Tertrais du groupe breton La Sociale. Enfin, moi qui rêve d'un grand débat entre ces deux lascars, je suis en partie exaucé car ils sont là, tous deux, dans ce monde libertaire 1871. D'abord, Philippe Pelletier, avec un article intitulé « Incendie en Californie, l'impasse du tout climat ». Les récents incendies de forêt en Californie ont suscité des commentaires approximatifs, nous dit Philippe. La question essentielle n'a pas été posée. Est-ce bien raisonnable de bâtir une mégapole de près de 13 millions d'habitants comme Los Angeles dans une région semi-aride où l'eau risque de manquer et les collines de flamber? De toute évidence, la réponse est non. Les commentaires ont en outre négligé deux facteurs majeurs: la démographie et la végétation. Ensuite, Jean-Pierre Tertrais avec un article intitulé « Descendre du piédestal ». On observe, nous dit Jean-Pierre Tertrais, depuis plusieurs décennies, une accélération des catastrophes naturelles et aussi de la dégradation des écosystèmes qui devrait interroger. Or, même en l'absence de déni, l'inquiétude ne suscite que des réactions épidermiques. L'avenir risque de s'en trouver obscurci. En outre, ces phénomènes sont-ils si naturels ? En lisant ces deux articles, vous verrez, s'il fallait encore le démontrer, que le monde libertaire n'est accroché à aucun dogme et que la confrontation des idées est une richesse, contrairement à ce que pensent certains et certaines qui s'attaquent à des livres lors de rencontres anti-autoritaires ou empêchent des débats d'avoir lieu, comme ça a été le cas le 22 mars dernier à Lille, où nos compagnons de l'organisation communiste libertaire ont eu les plus grandes difficultés à tenir discussion sur la question des gigafactories, les fabriques de batteries électriques et des voitures électriques dans les Hauts-de-France et ailleurs. Tout ça parce que deux intervenants sont blacklistés par certains tenants du post-modernisme. On en reparlera sûrement. Mais revenons au Monde Libertaire 1871, numéro 1871 d'avril 2025, qui sera disponible très bientôt dans les points de vente habituels et dans votre boîte aux lettres si vous êtes abonné, je vous l'ai déjà dit. Ceci est un déchet. Quel code couleur pour la poubelle nucléaire ? Un article de Nicolas du groupe Gaston Leval. L'atome et son usage sous forme d'énergie nucléaire ne sont pas qu'une affaire de science et de technique qu'il faudrait maîtriser pour en offrir les bienfaits à un peuple reconnaissant. L'atome, nouvel avatar d'un colonialisme qui ne dit pas son nom, concrétise et offre une volonté de puissance aux États qui décident d'en faire usage. À l'extérieur, l'atome est l'étendard et le moyen des nations qui revendiquent le droit de décider des affaires du monde. À l'intérieur, il soumet des populations jamais consultées par la tromperie et la promesse d'une énergie éternelle et bon marché, gage d'une consommation sans entrave. Mais les déchets, demande le profane, les combustibles usagés, les radiations, circuler, il n'y a rien à voir. Le nucléaire, c'est zéro déchet, ou si peu. Et puis dans les pages réflexions de ce Monde Libertaire 1871 d'avril 2025, le temps que la vérité mette ses chaussures, un article de Élisée Personne. Infox, fausses nouvelles et purs mensonges auront submergé trois fois la planète. Le rôle des technologies digitales dans la déferlante de contre-vérités rend la possibilité même du dialogue politique de plus en plus aléatoire. Nous sommes bien loin désormais de l'utopie du web originel et de ses premiers théoriciens qui estimaient que l'information devait être libre afin de libérer les internautes. Philippe Pelletier, toujours dans les pages réflexions, signe un article de son côté, un article intitulé « La gauche a failli, le post-fascisme avance ». Les médias pressés et les politiciens répètent à l'envi que Trump a gagné les élections. En fait, c'est la gauche américaine qui les a perdues. Qu'on en juge. Avec 76 millions de voix en 2024, Trump progresse certes de 2 millions de voix face à Biden en 2020, mais dans le même temps, la candidature démocrate perd presque 8 millions de voix pour un corps électoral comparable. Quant à l'abstention, elle progresse de 34 à 39%. La gauche, qui oublie son bilan catastrophique pour les plus récents, Hollande en France, Prodi en Italie, Schröder en Allemagne, Blair au Royaume-Uni, se réfugie dans le front antifasciste. La vieille recette pour être au pouvoir. Quant aux écologistes qui auraient pu être un espoir, ils ont choisi la voie étatiste de la gauche avec la même logique, la même illusion et la même impasse. Croire que des lois, des interdictions, des contraintes et des injonctions morales allaient changer les choses, faciliter le passage de l'agro-industrie à l'agroécologie, de l'obsolescence programmée à la durabilité, mettre fin à l'extractivisme. Or, c'est impossible, sinon à la marge, puisqu'ils ne remettent pas en cause le profit, la propriété privée des moyens de production et d'échange, ni l'État qui les encadre. Toujours dans les pages réflexions, N. Hadar se penche sur le danger de la binarité. L'illusion du choix à deux facteurs revient souvent à décider qui, de la peste ou du choléra, aura notre peau, s'il nous en reste. Examinons succinctement quelques dualités actuelles. Israël ou Palestine ? Droite ou gauche ? Viande ou poisson ? Républicain ou démocrate ? Chaque pan de la société semble avoir sa dualité toute faite, avec finalement trop peu de nuances pour constituer un choix véritable. Deux propositions ne font pas un choix, mais un dilemme, qui signifie alternative contenant deux propositions contraires ou contradictoires, entre lesquelles on doit choisir. Et puis, les pages culture s'ouvrent sur un article de Franck Plazanet du groupe Henri Laborie. S'il est un domaine qui demeure chevillé au corps des anarchistes, c'est bien celui de la presse et du livre. Il n'est qu'à observer le nombre d'anarchistes dans les métiers de correcteur-correctrice et d'imprimeur, et, ou bien encore le nombre de journaux anarchistes dans le XXe siècle naissant. Nous souhaitons mettre en lumière les maisons d'édition qui nous inspirent ou qui s'inspirent de l'anarchisme, de près ou de loin. Ce mois-ci, c'est une jeune maison d'édition installée en Bretagne qui est à l'honneur. Elle s'appelle Divergence et c'est à découvrir. Et c'est à découvrir dans les pages de ce Monde Libertaire, numéro 1871 d'avril 2025. Et comme chaque mois dans le ML, un peu de poésie avec le poème de Monica Jornet intitulé L'anarchiste. Aux pages culture, un papier de Mireille Mercier et Daniel Pinos, chronique d'un départ annoncé à propos du film L'âge imminent, réalisé par le collectif Virilia, Clara Serrano Llorens et Gérard Simon Jimeno, produit par Mireille Grae. Bref, tout ça c'est catalan, c'est espagnol et c'est sous-titré en français. Bon, voilà, moi je suis désolé, mais quand on m'oblige à passer du catalan au castillan comme ça, c'est très difficile. Donc, il s'agit de Bruno qui vit avec sa grand-mère, Natividad, à Barcelone. Cette femme de 86 ans est la seule famille qu'il n'ait jamais connue, mais sa dépendance croissante envers son petit-fils entre de plus en plus en conflit avec le besoin de liberté et de découverte de soi de ce dernier. Lorsque l'occasion se présente de placer Natividad dans une maison de retraite, Bruno est contraint de faire face à une décision à laquelle il n'avait jamais pensé auparavant. Un film d'une grande sensibilité qui vous fera aimer les batucadas des quartiers populaires de Barcelone. En tant que jeune créateur, nous dit le collectif qui a réalisé ce film, nous défendons un cinéma collectif et horizontal en restant fidèle à l'essence du projet. Dans chaque décision, les dates imminentes, l'âge imminent, est un dialogue entre générations, ce moment où la recette de soupe de notre grand-mère devient notre propre recette. À travers la relation entre Bruno et Nati, nous explorons comment l'amour et l'épuisement coexistent dans les relations familiales et comment parfois aimer signifie aussi apprendre à laisser partir. Notre tour du monde libertaire tire à sa fin avec, comme chaque mois, les fiches de lecture, avec pour commencer de Raymond Drone, Français libre et républicain espagnol contre le nazisme. Notez que ce livre n'est pas disponible dans les librairies, il faudra le commander et adresser un chèque à l'ordre de Association 24 août 44. Enfin, vous trouverez tout ça dans le monde libertaire. Je me dépêche parce que je vois que je suis extrêmement en retard. Et puis d'Yves Frémion, de la caricature à Charlie Hebdo, histoire du dessin politique et d'actualité. N'y allons pas par quatre chemins, nous dit Thierry Maricourt dans Le Monde Libertaire. Ce beau livre qui s'ouvre sur une citation d'Alexandre Vialat, que nous nous faisons un plaisir de reproduire, je cite « La caricature, ce n'est pas de l'art, c'est de l'anarchie. » Ce livre donc est un objet remarquable, une référence en matière d'humour. Et puis de John Barsman, « Les dockers du Havre, de la Révolution à nos jours », publication de l'Université de Rouen et du Havre. Cet ouvrage, nous dit Hugues du groupe Commune de Paris, offre un panorama complet sur cette corporation très spéciale et très organisée. Le livre porte en couverture le buste de notre compagnon Jules Durand, sculpté par Hervé Delamare, et c'est ainsi qu'au cours des chapitres d'autres riches illustrations sur le port, ses hommes, leur métier, ses navires et ses outils à différentes époques. J'avais prévu une chanson, mais on va pas la passer.
Il n'y a qu'une seule cartouche d'encre noire dans mon stylo désarmé, juste une plume trempée dans l'espoir d'un monde de fraternité. Au fier messager de la haine, j'envoie cet avion de papier chargé des seuls mots de ma peine sur leur tour d'inhumanité. Moi qui ne crois en aucun dieu, je prie celui qu'on voudra pour qu'au mur des villes
détaille un jour des mots de joie. Mes larmes ne m'écoutent plus, larmes de rage et de tristesse. C'est un peu de moi que l'on tue, mes rêves d'ado que j'y laisse. De nos rires de résistance, on gommera nos masques tristes. Nos guitares sans importance seront nos fusils d'artistes. Je vais encore gueuler l'amour, plus haut, plus fort sur tous les toits, pour qu'il soit contagieux autour et qu'il gagne enfin pour une fois. Je suis enfant sans armure, l'eau, le feu, la terre et le vent. J'ai mal à celui qu'on torture. Je suis humain simplement. Pour tous ces frangins qu'on enterre, j'ai dessiné cette chanson-là. Je n'ai que ça comme prière pour leur dire qu'on ne les oublie pas.
Je suis humain, Eric Frasiak. Alors, merci, un grand merci aux camarades qui nous suivent, qui nous autorisent à dépasser un petit peu. Vous écoutez le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Ah ben, c'est vachement sympa de leur part. Et puis alors, ça me... Salut. Alors, ça me permet de finir quand même, parce qu'on est bientôt à la fin de cette émission. Et nous parlions des recensions dans le Monde Libertaire à paraître, numéro 1871 d'avril 2025, avec donc de Nancy Fraser, Le capitalisme est un cannibalisme. Dans un essai très stimulant, Nancy Fraser, qui se réclame d'un marxisme critique, développe et actualise certaines des idées déjà avancées par Rosa Luxembourg. Dans L'accumulation du capital, elle avait en effet montré que le système capitaliste ne pouvait pas survivre sans asservir les peuples des périphéries, expropriés de leurs richesses et exploités dans les mines, les plantations, etc. Fraser souligne les impasses dans lesquelles s'enfonce le capitalisme contemporain. Pour y répondre, les mouvements d'émancipation devraient, selon elle, lier les luttes et les résistances à tous les niveaux où exploitation et expropriation s'intensifient. Prendre en compte ce stade cannibale du capitalisme et dégager des perspectives émancipatrices. Écologie, radical, féminisme, antiracisme, anti-impérialisme, lutte contre les violences policières et militaires, etc. devraient converger dans la construction d'une contre-hégémonie vers une transformation sociale urgente, vu l'état général de la planète et des sociétés humaines. Un conseil de lecture signé Philippe Godard. Les pages de lecture de ce Monde Libertaire 1871 d'avril 2025 ne seraient pas complètes si elles ne donnaient une place de choix à la nouvelle parution des éditions du Monde Libertaire de Sylvain Wagnon, Paul Robin, La liberté et la mort. Que nous soyons le fruit de l'amour, de l'habitude, d'un oubli ou même d'un viol, nous n'avons pas choisi de vivre, ni par conséquent d'être condamné à mort, car vivre aujourd'hui, c'est mourir demain. Donc, quid de ce questionnement à propos de la liberté et de la mort? En quoi peut-on être libre quand on n'a pas le choix? Eh bien justement, de même qu'on n'a pas choisi de vivre, mais qu'on peut choisir sa vie, on peut également choisir sa mort. Ce livre en est la démonstration. Bien sûr, cet ouvrage est disponible chez Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, tout comme la majorité des livres recensés dans ce monde libertaire. Et ben voilà, nous avons fait le tour du monde libertaire d'avril, le numéro 1871 à paraître, mais ce n'est pas tout. Parce que l'anarchisme est toujours bien vivant, parce que l'anarchisme se nourrit d'idées, de réflexions, de débats, parce que les temps actuels, de jour en jour, nous donnent raison, parce que la voix de l'anarchie est plus que jamais nécessaire, lisez et faites lire le Monde Libertaire en ligne, monde-libertaire.net. Et oui, on ne le dit pas assez, mais le ML est aussi sur le net, alors qu'on se le dise et qu'on se le chante. Et puis, vous trouverez dans le Monde Libertaire un moyen de vous offrir ou d'offrir un abonnement découverte du journal papier de 3 mois pour 6 euros. Ça vaut la peine quand même. Sachez encore que dans le Monde Libertaire 1871 d'avril 2025, très bientôt disponible, vous trouverez aux dernières pages la grille des programmes de Radio Libertaire ainsi que la liste des groupes et liaisons de la FA. Il y en a sûrement une ou un près de chez vous. Et puis, les derniers ouvrages disponibles à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e, métro République, Oberkampf ou Fille du Calvaire. La dernière de couve annonce et donne le programme d'un événement important à venir le 14 juin prochain à Montreuil, à l'espace Aéri, 57 rue Étienne Marcel, métro Croix de Chavaux. Il s'agit d'un colloque organisé par le groupe Commune de Paris et intitulé « Art, anarchie et émancipation ». Nous aurons l'occasion d'en reparler dans le Monde Libertaire et sur l'antenne de Radio Libertaire, qui sera d'ailleurs en direct pour cet événement. Eh ben, on envoie le générique. Allez! Et nous voici à la fin de ce tour du Monde Libertaire. Achetez, lisez et faites lire le Monde Libertaire. Retrouvez également le Monde Libertaire en ligne en tapant monde-libertaire.net. On se retrouve lundi 28 avril à 18h sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la glorieuse Fédération anarchiste. Merci à Monique pour la régie et la programmation musicale. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, d'être et de rester à l'écoute. Et n'oubliez pas, ni Dieu... Ni maître.